Alors j'ai essayé de tracer quelques grandes lignes qui pourront, j'espère, vous éclairer dans votre vie par rapport au chemin de la sanctification que j'ai décrit comme un chemin essentiellement de purification à travers la pénitence et aussi un chemin d'ouverture et de chemin de la voie d'enfance qui nous met donc dans l'axe de la vie éternelle, qui est essentiellement une vie filiale, permet de nous disposer. J'utilise à dessein un terme essentiel, se disposer, qu'on retrouve chez Jean de la Croix, comme chez Saint Ignace. En réalité, face à l'action du Christ, qui est notre Sauveur, face à l'action de la grâce du Christ en nous, ce que nous pouvons faire, c'est essentiellement un travail de disposition. Nous nous disposons à l'action de la grâce. C'est comme ça que nous coopérons à l'œuvre de Dieu. Que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Essentiellement, se disposer. Ici, on est pour acquérir un peu de sagesse, c'est-à-dire de bien comprendre ce qui dépend de nous, ce que Dieu attend de nous, et de quelle manière nous devons exercer notre liberté, de manière intelligente, sage, de chercher à faire des choses qui ne dépendent pas de nous, comme à vouloir produire des fruits qui viendront en leur temps, au lieu de chercher à faire des œuvres par nous-mêmes et de nous fatiguer pour rien, en agissant de nous-mêmes, plutôt que de perdre ainsi le temps précieux qui nous est donné à vivre sur terre en poursuivant des chimères, de plutôt travailler à notre salut d'une manière sage, en sachant nous disposer à l'action de la grâce. Échapper ainsi au piège de l'activisme, et puis surtout d'une vision fausse de la vie, des lois de la vie, et de ce que le Seigneur attend de nous à partir d'une vision aussi fausse de l'amour d'ailleurs. Donc c'est surtout ça qui me semble important de comprendre, c'est que nous ne faisons que nous désencombrer, déblayer le terrain pour laisser la grâce faire son œuvre en nous et à travers nous. Il y a dans l'Écriture des paroles qui peuvent nous éclairer, comme celle de l'image d'une terre qu'il faut défricher. Ainsi parle le Seigneur aux gens de Juda. Nous sommes en Jérémie 4, 3. Défrichez pour vous ce qui est en friche. Ne semez rien parmi les épines. Circoncisez-vous pour le Seigneur, ôtez le prépuce de votre cœur. Voyez, au fond, ce sont que des images de dépouillement, de retirer ce qui gêne. Ce n'est pas tellement de vouloir faire des choses que plutôt de défaire ce qui fait obstacle à l'action de la grâce. C'est un travail en creux, au fond, que nous avons à faire. Vous prenez l'image d'une terre qui, pour être bien ensemencée, a besoin d'abord d'être défrichée. La semence, c'est Dieu qui la donne. La grâce, on l'aura toujours, elle nous sera toujours donnée. Mais ce qui dépend de nous, c'est de nous disposer. Faute de bien comprendre ça, on se fatigue pour rien et on est à côté de la logique du royaume de Dieu, à côté du dynamisme de la grâce et on dépense une énergie folle à vouloir faire ce que Dieu seul peut faire et à ne pas faire ce qu'il attend de nous. On ne comprend pas bien les règles du jeu. Alors, ici, pour essayer de mieux les comprendre, c'est ça aussi la sophia, la phronesis, c'est d'être un bon architecte qui sait construire sa vie sur des bases solides. Ces bases solides, c'est ce travail de disposition. Parce que Jésus dit qu'on est comparable à un homme qui bâtit sa maison sur le roc si on met en pratique l'enseignement qu'il vient de nous donner. On ne réfléchit pas assez à ça, que ça vient juste à la fin du sermon sur la montagne. Et hier, on a vu que ce sermon sur la montagne, c'est une loi nouvelle qui va jusqu'à réformer le cœur. Et donc, en fait, Jésus nous dit ici, si vous suivez cette loi nouvelle que je vous donne, qui est essentiellement un travail de purification de votre cœur, eh bien, vous bâtirez votre vie sur le roc, parce que je pourrai habiter dans votre cœur. Vous serez enraciné en moi. Vous produirez du fruit en moi. Donc, travailler sur soi, travailler sur son cœur, en se laissant guider par l'enseignement du Christ. Nous avons vu qu'il y avait tout un chemin donc, de détachement par rapport aux passions, un chemin un esprit de pauvreté, hein, de lutter contre la cupidité, et puis un esprit aussi d'humilité à cultiver à travers la voie d'enfance, confiance, d'abandon, pour retrouver la passivité dont Dieu a besoin pour que sa grâce puisse agir en nous librement. Puissions nous laisser aimer, nous laisser faire par lui comme un petit enfant. La voie de la pénitence comme la voie d'enfance, je distingue les deux parce que Marie a suivi la voie d'enfance et elle n'a pas suivi la voie de la pénitence. Elle a suivi la voie d'enfance. Elle n'a pas eu à faire pénitence comme nous. La voie de la pénitence comme la voie d'enfance, c'est Jésus qui la trace. Benoît XVI insiste pour dire que la pénitence est aussi un don de Dieu. C'est Jésus qui nous ouvre le chemin de la pénitence. Le repentir, c'est un don de Dieu. On peut dire même que Jésus nous porte dans l'aveu. Quand nous nous confessons, Jésus est présent en nous. Une mystique, Adrienne von Speer, qui a contemplé Jésus confessant nos péchés, tous nos péchés sur la croix, et buvant lui-même l'humiliation de l'aveu. Donc c'est Jésus qui nous donne en fait ce travail de disposition à la grâce, c'est Jésus qui le fait. Seule la grâce peut nous disposer à la grâce. Quand même ce travail de disposition, il est l'œuvre de Jésus en nous, mais auquel nous coopérons activement. Donc à partir de cette considération, on peut comprendre aussi que ce chemin de la pénitence, comme cette voie d'enfance, c'est Jésus qui le trace donc dans notre vie. Et il le trace à travers notre vie concrète, c'est à travers les circonstances de la vie que nous sommes amenés à avancer sur le chemin de la pénitence, sur un chemin d'une attitude de confession, de reconnaissance de nos fautes, d'humilité, dans l'aveu, sur un chemin de repentir, sur un adjéré contrat, de poser des actes contraires. C'est le Seigneur qui nous amène à suivre ce chemin, de manière beaucoup plus large que simplement le sacrement de la pénitence, vous l'avez bien compris, c'est toute notre vie qui peut prendre une tournure pénitentielle, si je puis dire, si nous nous laissons guider par le Christ. Et c'est aussi Jésus qui nous ouvre la voie d'enfance. Comme il l'a fait pour la petite Thérèse, il lui a enseigné cette voie. C'est lui qui s'est fait tout petit, qui a voulu vivre dans son humanité une dépendance totale au Père. Je ne puis rien faire de moi-même, comme nous l'avons vu hier. et donc qui nous ouvre cette voie d'enfance pour que nous puissions devenir en lui et par lui fils bien-aimé du Père. Ça, c'est notre sanctification. Nous comprenons mieux que saint Paul puisse dire que le Christ est notre sanctification. Il est le chemin. Il est la voie. Maintenant, Jésus veut pas simplement que nous nous laissions sauver et sanctifier par lui. Et nous passons à la deuxième partie de l'enseignement pour aujourd'hui. Mais il veut nous associer à sa mission. Il veut précisément que nous portions du fruit. La gloire du Père, c'est que vous portiez du fruit. Donc de sauver, nous devons devenir sauveurs. Mais nous avons déjà vu hier que nous ne pouvions convertir les autres qu'en nous convertissant d'abord nous-mêmes. On enlève d'abord la poutre qui est dans ton œil. Mais malgré tout, il y a une distinction à faire entre le travail de la sanctification, qui est le fondement, l'essentiel, dont tout le reste dépend, et puis l'aspect de l'œuvre féconde pour la vie du monde, pour le salut du monde, auquel Jésus veut nous associer, puisqu'il veut continuer son œuvre de rédempteur en nous et à travers nous. Donc ici, on regarde davantage l'aspect du fruit. Nous sommes là sur terre pour porter du fruit pour le salut, pas être des arbres stériles. Alors si on regarde les choses sous cet angle-là, il y a une image complémentaire. Jusqu'ici, j'ai axé les choses sur la finalité ultime, si je puis dire, qui est donc de participer à la vie filiale de Jésus en retrouvant un cœur d'enfant. Et c'est ça, pour l'éternité, la vraie vie. Mais Dieu s'est fait homme, Dieu le Fils s'est fait homme, le Dieu fait homme passionné, c'est le Christ, et il se présente dans l'Évangile comme l'époux. Ici, on passe à une autre image. L'image de l'enfant, puis il y a l'image de l'épouse. Face au Christ, nous sommes en situation d'épouse parce qu'il est le Dieu fait homme en amouré, qui dans son fol éros a voulu s'unir à nous, à chacun de nous, de la manière la plus intime, en assumant notre condition humaine, partageant notre vie pour que nous puissions partager la sienne. Un merveilleux échange qui s'opère par le mystère de l'incarnation. Ce merveilleux échange est un échange amoureux. Quand on aime, on désire s'unir. Alors, pourquoi je prends l'image de l'épouse? Parce que l'épouse est appelée à suivre l'époux et à partager sa vie et à lui faire des enfants. Les enfants, ce sont les œuvres. Jésus veut que nous nous laissions épouser par lui pour qu'il puisse, à travers nous, produire les œuvres qu'il veut produire dans le monde. Ou si vous voulez prendre l'image d'Élisabeth de la Trinité, que nous soyons une humanité de surcroît dans laquelle il puisse renouveler tout son mystère. Ça, c'est l'image de l'Église comme corps du Christ. Nous sommes le corps du Christ, les membres de son corps, dans lequel il veut continuer, à travers lequel il veut continuer son œuvre de rédempteur. Mais nous ne pouvons être le corps du Christ, être un seul corps avec lui que si nous sommes épouse. L'épouse, elle est une seule chair avec l'époux. Nous laisser épouser pour faire un seul corps avec lui, le laisser vivre en nous ce qu'il a à vivre pour le salut du monde. Alors, dans le chemin spirituel, j'ai eu l'occasion de remarquer qu'il y a des grâces d'épousailles qui peuvent être données, d'unions très intimes. Sont vécus habituellement, autant que j'ai pu l'observer ici, je me contente de me laisser guider par l'expérience, ce que le Seigneur m'a donné de voir, je suis témoin, c'est que c'est grâce d'union intime d'épousailles, dans lequel il y a une sorte d'étreinte amoureuse du Dieu fait homme passionné, dans son fol éros pour nous, ces grâces ont lieu habituellement, comme j'ai pu les voir, avant la plongée dans la vie filiale. Au sens où on comprend très bien que l'époux, que Thérèse compare à un aigle qui cherche sa proie, qui nous saisit et qui nous emporte avec lui pour nous faire passer au ciel. Il vient, c'est lui qui descend jusqu'à nous pour nous saisir, laissons-nous conquérir par le Christ, dit Benoît XVI. Et il nous emporte dans sa vie filiale. Vous voyez ? Donc il y a des grâces fortes d'étreinte amoureuse, d'union intime, qui peuvent précéder en fait ensuite une vie filiale beaucoup plus cachée, beaucoup plus intime, qui est la vie éternelle. Mais malgré tout, le Christ continue à être l'époux toujours. Ces deux images, il reste l'époux qui nous partage sa vie, mais en fait, s'il nous épouse, c'est pour nous partager sa vie filiale. Mais c'est aussi pour nous faire vivre sa vie de rédempteur. S'il n'y avait pas eu le péché, les choses seraient plus simples. Mais à cause du péché, nous sommes appelés pas simplement à communier à la vie filiale de Jésus, mais à communier à sa souffrance, à communier à son mystère de rédemption, à porter la croix avec lui, à le laisser continuer sa mission à travers nous. Et de quelle manière, en étant une bonne épouse pour lui, en nous laissant faire, en le laissant faire en nous et à travers nous. Sainte Thérèse d'Avila, elle n'a pas tellement parlé de voie d'enfance, ni tellement de vie filiale, elle a surtout développé cet aspect de l'âme épouse. Écoutez Jérémie. Tu m'as séduit, Seigneur, et je me suis laissé séduire. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort. Nous sommes en Jérémie 20, 7. Quand une femme se laisse vraiment aimer, elle devient ensuite disponible. Elle est ouverte, elle est docile. Ça, c'est le charisme de la femme, un charisme d'épouse, une grâce pour accueillir l'amour de l'époux. La femme sait se laisser aimer davantage que l'homme. Mais face à Dieu, nous sommes tous femmes, nous sommes tous épouses. L'âme, elle est épouse. Je me suis laissé séduire, c'est Jérémie qui parle, un homme. Jésus est un époux respectueux et délicat, mais son amour en même temps est violent, au sens d'une ardeur terrible, d'un feu. La violence de son fol eros. C'est un feu qui embrasse, qui est comme un amour irrésistible, au sens où si nous le laissons un tant soit peu nous pénétrer, eh bien, nous sommes à ce moment-là séduits par la douceur, si je puis dire, irrésistible de son amour. Goûter combien le Seigneur est bon, si nous commençons à goûter la douceur de sa tendresse, eh bien, il nous maîtrise. Devenant une âme épouse qui se laisse épouser. Parce qu'on ne peut pas résister à un tel amour. Si je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et s'il m'ouvre, j'entrerai. Quand il est rentré, l'époux, après on ne peut plus vivre sans lui. Parce qu'il nous séduit. On ne sait pas où il va nous conduire. Peut-être il veut nous conduire vers le Père, faire vivre sa vie filiale et en même temps, il nous demande de le suivre sur le chemin de la croix, pour coopérer à ses œuvres en tant que rédempteur. Tout ça, c'est profondément lié. Nous ne pouvons pas, comme je l'ai dit hier, participer intimement à la rédemption sans en même temps nous enfoncer dans la voie d'enfance. Ici, pour illustrer cette image de l'âme épouse, nous pouvons prendre l'image de l'homme comme une terre. L'homme est un arbre. Et dans l'Écriture, il est aussi comparé à une terre, dans la parabole du semeur. Vous voyez, et dans Isaïe, nous avons cette expression un peu étonnante, mais finalement compréhensible, où il dit « Cette terre se nommera épousée ». À travers l'image de la terre, de l'âme comme une terre, nous avons l'image d'une disponibilité, d'une réceptivité. La terre, elle ne peut être féconde que si elle se laisse pénétrer par la semence. L'épouse ne peut enfanter que si elle accepte de se laisser pénétrer par l'époux qui jette la semence. Le semeur, c'est le Christ. Et il veut que nous soyons pour lui une terre qui se laisse épouser. Cette image de la terre qui se laisse épouser, qui traverse toute l'Écriture, elle nous ramène toujours à cette réalité cachée, centrale, qui est le cœur, qui est bien distingué de l'affectivité, bien distingué de la volonté, qui n'est pas à confondre non plus, à identifier à l'esprit. Le cœur, c'est le sein, S-E-I-N, de l'être, le fond de l'être. Comme dit le catéchisme, en citant Jérémie d'ailleurs. J'inscrirai ma loi au fond de leur être, c'est dans leur cœur, le fond de l'être. C'est le fond du vase. En fait, c'est une capacité d'ouverture, le cœur. À la fois une capacité d'ouverture une capacité de se tourner vers. C'est notre cœur qui se tourne vers et qui s'ouvre et se tourne vers. S'ouvrir, ça correspond davantage à la foi. Le cœur, c'est le lieu où se forme la foi. Et se tourner vers, ça correspond davantage à l'espérance. On a une capacité de s'ouvrir, de se tourner vers. L'épouse, elle est faite pour s'ouvrir, se tourner vers l'amour de l'époux, pour l'accueillir. Mais restons sur cette image simplement de l'ouverture. voyez, d'une terre qui s'est laissée défricher de tout ce qui l'encombrait pour devenir une terre vierge qui se laisse épouser. Et Jésus ne peut pas nous épouser si on n'a pas avancé sur le travail de la pénitence. Ça arrive quelquefois que des personnes reçoivent des grâces d'épousailles avant de faire le travail de purification, mais c'est juste à ce moment-là ponctuel. C'est pour séduire et donner à la personne la force de faire le travail de purification. Mais il n'y aura pas d'état d'épousaille, permanent, enfin en tout cas, qui dure, sans qu'on retrouve une virginité de cœur, une terre défrichée, disponible. On enlève on désencombre de ce qui gêne. Ce qui gêne l'union, la fiancée, elle se fait belle pour son époux. Rappelez-vous ce que dit saint Paul aux Corinthiens. Il compare les Corinthiens à des épouses. Hein. J'éprouve à votre égard une jalousie divine. 2 Corinthiens 11, 2, car je vous ai fiancé à un époux unique comme une vierge pure à présenter au Christ. Le prêtre, il est là au service de ce mystère d'épousailles. Il est comme saint Jean-Baptiste, il est l'ami de l'époux, il n'est pas l'époux évidemment, il ne peut pas chercher à attirer les gens à lui, à les séduire. Vraiment là, il ferait mal au cœur de Jésus. Mais il doit s'effacer devant l'époux, mais favoriser autant qu'il peut ce mystère d'épousaille. Il est au service de l'Église épouse. Il est là pour permettre aux fidèles de porter du fruit en se laissant épouser par le Christ. Je vous ai présenté comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Le sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce baptismal. Une affirmation chère à Jean-Paul II, mais qui rejoint tout l'évangile, c'est-à-dire le prêtre, c'est l'intendant qui donne la nourriture à ceux qui lui sont confiés, puisse, je dirais, avancer sur le chemin de la sainteté et produire le fruit que Dieu attend d'eux. Marie elle-même s'est laissée servir par saint Jean. Elle a reçu l'Eucharistie de ses mains. Ce sujet, il est évident que le prêtre célèbre au maximum et sert au maximum ce mystère quand il célèbre l'Eucharistie, évidemment. Là, c'est vraiment le mystère d'épousailles qui se réalise de la manière la plus, j'allais dire, la plus crue, la plus concrète. C'est vraiment le corps du Christ qui se donne, l'époux qui se donne corps et âme à nous et qui nous pénètre vraiment. Celui qui me mange demeure en moi et moi en lui. C'est vraiment l'union à l'époux qui trouve dans l'Eucharistie son sommet. D'ailleurs, il arrive souvent que des grâces d'épousailles soient données au moment de l'Eucharistie, avec la communion. Quand je dis des grâces d'épousailles, c'est des étreintes amoureuses qui touchent à la fois le corps et l'âme, qui fait que la personne se sent envahie, pénétrée par cet amour. Et connaît une joie intense, évidemment, parce que la joie, c'est le fruit de l'union. On trouve ça décrit chez les mystiques, mais encore une fois, cet aspect qui est peut-être quelquefois très sensible et très, très impressionnant, quand on entend des personnes témoigner de ça, c'est pas la finalité ultime. La finalité ultime, encore une fois, c'est de participer à l'échange d'amour éternel entre le Père et le Fils. Je vous rappelle. Bien. Donc, nous sommes appelés à nous disposer à la manière d'une vierge, enfin, nous avons à nous revirginiser en répudiant tous nos faux époux, hein, nos Baals, c'est-à-dire en arrêtant de commettre l'adultère par l'idolâtrie. Et la cupidité est une idolâtrie et donc un adultère vis-à-vis du Dieu époux. Donc nous nous détachons de nos idoles, nous nous laissons purifier par la pénitence et nous nous disposons à une union intime avec le Dieu fait homme passionné. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Après, une fois qu'il nous a maîtrisés, qu'il a été le plus fort, que son amour nous a conquéris, et qu'on devient de plus en plus une âme soumise, une épouse soumise, qui cherche à plaire à son époux parce qu'elle trouve sa joie en lui, et bien après, il reste simplement à le suivre, c'est-à-dire à partager sa vie, à de fait le laisser faire ses œuvres en nous et à travers nous. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus? Il est prêtre et il est prophète. Vocation baptismale de tout membre du corps du Christ, de toute âme épouse, c'est d'être prêtre et prophète et roi. Mais je développerai surtout les deux aspects qui sont les plus simples à développer, les plus importants, me semble-t-il aussi, celui du sacerdoce baptismal et de la vocation prophétique. Jésus nous veut participants de son sacerdoce. Et nous sommes ramenés au texte que nous avons entendu hier, qui est un des textes fondateurs de la communauté. Nous devrions toujours garder bien présent dans notre cœur. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps, vos personnes, en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Romains 12:1. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. On peut traduire le culte rationnel, disons le culte véritable, le culte logique, logikon, je crois en grec. Enfin, le vrai culte. Le prêtre, c'est celui qui offre le sacrifice. Jésus, sur la croix, a offert son corps pour nous. Il a offert sa vie. Un sacrifice en réparation, un sacrifice expiatoire, un sacrifice de réparation par rapport à nos désobéissances, d'aller jusqu'au bout de l'obéissance. Le vrai sacrifice, c'est le sacrifice de l'obéissance. Et Jésus veut nous associer à sa vie victimale, j'ai pas peur du terme, sa vie, à faire de nous des hosties vivantes. Quelle est la matière du sacrifice? Qu'est-ce que nous offrons? Qu'est-ce que nous sommes appelés à offrir au Père avec Jésus et en Jésus? Eh bien, c'est toute notre vie, toutes nos activités. Offrez vos corps, c'est toute notre vie concrète. Tout ça peut prendre une valeur rédemptrice. Si nous laissons Jésus nous saisir et nous emporter dans son offrande, dans son sacrifice, c'est précisément ça qu'il veut, l'époux. Le Dieu fait homme passionné, c'est nous prendre dans son offrande. Il nous saisit, il nous conquiert et il nous prend dans son offrande au Père. Ce qui se passe dans l'Eucharistie. Il se donne à nous en hostie, sous forme d'hostie. Il se donne à nous dans son sacrifice, pour nous prendre dans son sacrifice. Que notre vie devienne sacrificielle. Alors ici, nous pouvons repenser à Saint Pierre, 1 Pierre 2, 5. Vous-même, comme pierre vivante, alors il dit d'abord, approchez-vous de lui, la pierre vivante, rejetée par les hommes et choisie précieuse auprès de Dieu. Approchez-vous de lui, laissez-le s'approcher de vous, unissez-vous à lui. Soyez de bonnes épouses qui se laissent épouser pour faire un seul corps avec l'époux. Vous-même comme pierre vivante. Alors c'est l'image de l'Église qui est construite dans des pierres vivantes, mais encore une fois, l'Église ne peut s'édifier comme temple avec des pierres vivantes bâties sur la pierre de fondation, le roc qui est le Christ, que si elle se laisse épouser d'abord. Vous-même, comme pierre vivante, prêtez-vous à l'édification d'un édifice spirituel pour un sacerdoce saint, en vue d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Les sacrifices spirituels que nous offrons au Père, en Jésus, par Jésus, en le laissant continuer sa vie d'offrande en nous, encore une fois, ce sont toutes nos activités. Pas simplement les souffrances, les moments, les choses que nous supportons, que nous pouvons, sommes appelés à supporter dans l'humilité, la douceur et la patience de Jésus, en nous unissant à son cœur blessé, mais aussi les moments de joie, les moments de détente, toute action peut être vécue dans un esprit d'obéissance et revêtir une valeur rédemptrice. On peut sauver une âme en ramassant une épingle avec amour, à condition de vivre cet amour comme un acte d'obéissance au Père en Jésus et par Jésus. On peut dire obéissance, on peut dire abandon, c'est l'abandon rédempteur. Christ est allé jusqu'au bout de l'abandon sur la croix et nous appelle à vivre toute notre vie dans un abandon rédempteur. Vous voyez comment les choses sont étroitement unies, cet aspect sacrificiel de la vie est grandi au fur et à mesure que nous enfonçons dans la vie filiale de Jésus. Et en même temps, il y a cet aspect, voyez, d'épousaille, qui fait que nous le laissons nous emporter et nous partager sa vie d'offrande, nous le laissons saisir et entraîner par lui, comme une épouse qui suit son époux partout où il va. Et donc, nous revenons sur cette pensée que la sainteté, mais ici il s'agit aussi de la mission, c'est-à-dire la fécondité de notre vie, disons plutôt ici, ne dépend pas de la grandeur des choses, mais de l'esprit dans lequel on va vivre les choses ordinaires. Marie a participé plus intimement à l'œuvre de la rédemption, en faisant la couture, en faisant la cuisine, que saint Paul et que tous les autres martyrs en versant leur sang, parce qu'elle est allée plus loin dans l'abandon. C'est la profondeur de notre abandon, de notre obéissance dans le Christ, dans l'offrande de notre vie sous un mode d'obéissance, qui fait la vraie fécondité de nos actions, qui en assure la vraie fécondité rédemptrice. Vous voyez, je dis l'offrande de notre vie sous l'angle, sous un mode d'obéissance. Je précise sous un mode d'obéissance parce que le danger, encore une fois, il est de confondre la sainteté avec une sorte de générosité folle, sans limite, qui fait que nous serions dans un vouloir nous donner pour les autres, un vouloir servir, un vouloir nous sacrifier pour les autres, sans passer par la porte étroite du renoncement à notre volonté propre. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Et ici, on peut penser à ce qui s'est passé avec Saül. Vous savez que par le prophète Samuel, Dieu lui avait demandé de vouer à l'anathème et d'exterminer tout le bétail des Amalécites. Et au lieu d'obéir à la parole du Seigneur, Saül a pensé qu'il pouvait en garder pour les offrir en holocauste. Dieu se plaît-il aux holocaustes et aux sacrifices comme dans l'obéissance à la parole du Seigneur? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité plus que la graisse des béliers. Un péché de sorcellerie, voilà la rébellion. Tu as voulu faire des choses pour Dieu? T'as gardé du bétail pour te faire des sacrifices que t'offrais à Dieu en pensant que ce serait agréable à Dieu. Si tu lui offres du bétail comme ça, t'as oublié la première marche, l'obéissance, qui est le vrai sacrifice. On peut faire plein de choses pour Dieu, si ce n'est pas dans un esprit d'obéissance vraiment, ça ne portera pas de fruit pour le salut du monde. Parce qu'on a oublié, on oublie que Dieu sauve par la croix, par l'obéissance filiale du Christ, qui répare la désobéissance du péché. Il n'y a pas de victoire sur le péché, sur le mal, sans que nous laissions Jésus nous associer à son offrande toute d'obéissance, toute d'abandon. Voyez, si on ne va pas jusqu'à la compréhension de ce mystère de la rédemption, jusqu'à une contemplation de ce mystère pour acquérir une sagesse, ici nous sommes dans un regard de sagesse sur ce qui fait la vraie fécondité de notre vie, dans la lumière du mystère du Christ. Si on ne va pas jusque-là, on reste dans des visions trop courtes, trop humaines de l'amour, encore une fois, en se disant, ben voilà, aimer, c'est se donner toujours plus, je me donne, je me donne, je me donne. Saül a pensé se donner à Dieu en faisant tout ce qu'il voulait pour pouvoir lui offrir les sacrifices comme il voulait, ouais, mais à côté de la plaque. Il a perdu la royauté. Ouais. C'est ici que la mystique sauve la morale. C'est-à-dire, si on ne comprend pas les règles du jeu, qu'on ne vit pas les choses vraiment dans la lumière de Jésus, on risque de rester à un niveau d'un moralisme héroïque qui est stérile.
Saül avec le bétail pour sacrifier, c'est qui en référence?
C'est 1 Samuel 15. Ou 16, je ne sais plus. Non, c'est... C'est 15. Oui, ça se termine ainsi, parce que tu as rejeté la parole du Seigneur, il t'a rejeté pour que tu ne sois plus roi. Alors, le sacerdoce baptismal, cette vie sacrificielle, dans la vie ordinaire. C'est l'essentiel de la fécondité de l'Église. C'est la vie de Marie. C'est ça qui fait que Jésus renouvelle son mystère en nous, à travers nous. Encore une fois, le sacerdoce ministériel, il est au service de ça, du sacerdoce baptismal. J'ai pu expérimenter de la joie de vivre mon sacerdoce ministériel auprès des malades, en les aidant à se tourner vers Jésus et dans la contemplation de Jésus, à se laisser attirer par lui sur le chemin de l'abandon dans leur souffrance. En comprenant que là était la vraie réussite de leur vie. La souffrance approfondit l'amour, dit Jean-Paul II. Il dit en même temps que l'amour rend la souffrance féconde. Évidemment, ce n'est pas la souffrance elle-même, c'est l'obéissance dans la souffrance qui rend la souffrance féconde. Mais la souffrance est la matière d'un approfondissement de notre abandon. Donc, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, dans cet esprit d'obéissance, de reniement de sa volonté propre, non pas ma volonté, mais la tienne. Nous nous initions à Jésus dans sa prière au moment de son agonie. Et qu'il prenne sa croix, parce que ce sacrifice intérieur de notre volonté propre se vérifiera, s'éprouvera et s'approfondira dans l'épreuve. En fait, les épreuves, c'est ce qu'il y a de plus précieux dans notre vie. Puisque c'est ça qui nous permet le plus d'approfondir notre communion à la vie du Christ dans l'offrande. Et je dis ça tout en gardant présent à l'esprit ce que le Concile a enseigné à propos du sacerdoce baptismal, c'est-à-dire que tout, y compris, il cite les moments de détente, les détentes, y compris l'acte conjugal, tout, même donc des moments de jouissance physique et psychique intense, tout peut être enveloppé et vécu à l'intérieur d'un esprit d'abandon. Tout peut revêtir une valeur rédemptrice. Ceci étant posé, il est vrai que la souffrance approfondit l'amour, la matière d'un abandon plus grand. Ce que je vous disais déjà hier, ce que dit l'Épître aux Hébreux, tout le fils qu'il était, il a pris par la souffrance l'obéissance. Jésus lui-même est parvenu à la perfection de son offrande au Père grâce à la croix. En aimant le Père jusqu'à la croix. La plus grande sagesse évangélique, c'est la sagesse de la croix. Commencez notre enseignement en parlant de la sagesse, la phronésis. Sagesse qui nous permet d'épouser le dynamisme de la grâce et de nous laisser donc conduire par le Christ sur le chemin d'une vie belle, bonne, féconde, de ne pas gâcher notre vie en tournant en rond et en restant enfermé dans des fausses routes, des faux espoirs. Eh bien, la vraie sagesse, c'est la sagesse de la croix. tous les saints le disent. Celui qui a trouvé la sagesse de la croix, il a trouvé la perle précieuse. Parce qu'à ce moment-là, ça devient un homme insubmersible. Saint Jean de la Croix dit que l'amour, c'est profiter de tout, du bien comme du mal. Celui qui épouse la sagesse de la croix, il sait profiter de tout. Des échecs, des contradictions, des routes barrées, des situations d'impuissance, des injustices, des humiliations, il sait profiter de tout. Dans notre vie concrète, c'est évident qu'on risque de prendre nos désirs pour la réalité, au sens que vivre l'offrande de Jésus, entrer dans l'offrande de Jésus au moment de l'épreuve, ça ne peut se faire que progressivement. La croix, ce sera toujours la contradiction. Ce sera toujours la chose injuste, absurde humainement. Sinon, ce ne serait pas une vraie croix. Les croix compréhensibles, les croix dont on voit le sens, ce ne sont pas les vraies croix. Les vraies croix, c'est quand notre vie, apparemment, est brisée dans ce qu'elle avait de meilleur, dans nos espoirs, nos attentes légitimes. Les vraies croix, c'est les contradictions qui nous brise dans notre élan vital, dans ce que nous pensions être la vraie réussite et la vraie réalisation de notre vie, au service de Dieu et des autres. Pensez au Père Thomas, du jour au lendemain, réduit à l'impuissance, ne pouvant plus prêcher, ne pouvant plus enseigner. Pensez au Padre Pio, ne pouvant même plus confesser, devant célébrer la messe d'une manière privée. Donc, dans notre relation à la croix, il faut être humble, c'est-à-dire comprendre que nous ne pourrons l'aimer la croix que si nous aimons Jésus sur la croix, si nous les laissons attirés par lui, que nous avons l'espérance, laissant Jésus éveiller en nous l'espérance, que cette croix qu'il nous offre, qu'il nous invite, qu'il nous appelle à porter avec lui pour lui enfanter des âmes, pour l'aider à sauver le monde, c'est en même temps le lieu, elle est en même temps le lieu d'une union plus intime avec lui. Nous avons besoin de nous laisser saisir et conquérir par le Christ pour être unis à lui et trouver la force dans cette union pour vivre les épreuves avec lui, soutenu par lui, porté par lui, mais réciproquement, les épreuves sont aussi le chemin d'une union et d'un mystère d'épousailles plus profond. La souffrance approfondit l'amour, elle approfondit notre abandon au Père avec Jésus, mais elle approfondit aussi notre union intime avec le Christ, l'union de l'épouse avec l'époux Jésus. Si nous acceptons de partager sa souffrance, c'est évident qu'il nous donne encore plus sa tendresse. Et donc il nous console. Béni soit le Dieu 2 Corinthiens 1, 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos tribulations. Afin que par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu, nous puissions consoler les autres en quelque tribulation que ce soit. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous. Les souffrances du Christ. Dans ce mystère d'épousailles, ce n'est plus les nôtres, c'est les siennes qu'il nous partage. Il veut vivre sa passion en nous. Les souffrances du Christ abondent pour nous. L'époux, il partage sa vie à l'épouse. Et j'allais dire, on est tombé sur un époux qui n'a pas tellement d'autres choses à nous partager dans le monde, dans un monde qui le rejette et qui le crucifie à nouveau. Il faut le prendre comme il est, notre époux. Il souffre. Une épouse qui épouse un époux qui souffre, elle ne va pas lui demander de ne connaître que des délices, d'accepter, partager sa vie comme elle est. Nous voudrions quand même pas être à côté de l'époux, les épouses, les compagnons de l'époux, pour parler autrement, et avoir une vie tranquille à côté d'un époux en agonie. Bon. De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, ainsi par le Christ abonde aussi notre consolation. C'est la joie de la croix. Et la joie de la croix, donc comme fruit d'une union, j'allais dire conjugale, oui, d'un mystère d'épousailles qui s'approfondit sur le, pour reprendre une expression qu'on trouve chez les mystiques, sur le lit de la croix, hein, qui devient donc le lieu d'une étreinte encore plus forte du Christ. Qui, touché par la générosité de notre acceptation, de notre offrande, peut se donner encore plus amoureusement à nous. Cette joie, elle vient comme un fruit mûr aussi. Nous pouvons l'espérer, l'attendre, avoir confiance. Nous savons que partageant nos souffrances, vous partagerez aussi notre consolation. C'est au futur. Partageant nos souffrances maintenant, vous partagerez aussi notre consolation. Ce temps de mûrissement qui fait que la croix porte son fruit de joie, devient le chemin de la joie pure, que Dieu réserve à ses amis, que Jésus réserve à ses âmes épouses, c'est en même temps le temps nécessaire à une pleine acceptation de la croix. Nous ne pouvons pas l'accepter comme ça. Jésus lui-même a vécu à l'agonie ce chemin pour nous d'une acceptation progressive au sens où il commence par dire « si c'est possible que cette coupe passe loin de moi ». Mais tout est vécu, évidemment. Il a voulu éprouver dans son humanité l'horreur devant la mort. Il a traversé notre répulsion, ce qu'on appelle la volonté de nature, c'est-à-dire que l'homme a naturellement horreur de la mort et de la souffrance. Jésus a voulu vivre dans son humanité cette répulsion. Ce premier mouvement qui fait que nous que si c'est possible que cette coupe, nous disons, il a voulu dire pour nous que si c'est possible que cette coupe passe loin de moi, mais non pas ma volonté mais la tienne, il a assumé nos réticences, nos résistances, nos peurs, disons plutôt notre angoisse. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Jésus ait connu la peur, mais plutôt l'angoisse devant la souffrance imminente pour pouvoir lui-même nous ouvrir le chemin d'une pleine et véritable acceptation de la croix. Il faut accepter que ça se passe dans le temps. Le fruit de cette pleine acceptation, c'est la joie. Alors, au fur et à mesure que nous rentrons dans la logique de la croix, nous ne nous étonnons plus des contradictions. Quand je dis nous ne nous étonnons plus des contradictions, je repense à Saint-Pierre. Dans son exhortation, très cher, ne jugez pas étrange l'incendie qui sévit au milieu de vous pour vous éprouver, comme s'il vous survenait quelque chose d'étrange. Mais dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, encore une fois, ce n'est pas les nôtres, c'est les ciels qui nous partagent, dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin que lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Ne pas s'étonner d'avoir à passer par la croix pour que à la fois s'approfondisse notre union intime à l'époux divin et en même temps que nous puissions vraiment coopérer d'une manière intime à l'œuvre de la rédemption à l'intérieur de ce mystère d'épousailles. Ne pas s'étonner, au fur et à mesure que nous avançons dans cette sagesse, c'est-à-dire dans cette intelligence de la logique de la croix, bien, nous pouvons davantage dire, comme saint Paul, en ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. C'est vers la fin de la première épître de Pierre. C'est 1 Pierre 4, 12. Et sinon, le passage célèbre, c'est 1 Colossiens 1, 24. En ce moment, je trouve ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous. Je complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Je pense que les saints, ils restent des hommes, donc il y a toujours un premier mouvement qui est de ne pas comprendre le sens et de quelque part de rejeter entre guillemets la croix, mais il la dépasse ce mouvement de plus en plus vite, au sens où ils entrent de plus en plus dans cette logique, dans cette sagesse. Et il semble bien qu'il puisse y avoir un état, comme a connu Marc Robin. Vous voyez, ça, évidemment, c'est des vies exceptionnelles, mais ça, en même temps, nous fait comprendre comment, dans notre vie chrétienne, il peut y avoir un mélange de souffrance et de joie. Les deux à la fois. C'est pas simplement je vis la croix et puis après Jésus me console en disant tu as été pour moi une bonne épouse et je me donne à toi encore plus, je te remercie, je te console, mais c'est une joie à l'intérieur même de la souffrance. voilà, qui est au fond un peu le propre et le secret de la vie chrétienne. Si on est chrétien, c'est pour vivre le mystère de la rédemption d'une manière consciente et libre. Pensons à nos frères aînés juifs qui ont communié à la souffrance de Jésus, on peut le dire, dans la Shoah. Jésus aurait vécu sa passion. Mais dans leur immense majorité, ils l'ont vécu sans pouvoir s'unir d'une manière consciente et libre au mystère de la rédemption. Même si certains sont allés très loin dans leur foi en chantant des psaumes d'action de grâce, en allant très très loin dans l'offrande à Dieu, et ils ont communié sans le savoir à l'offrande du Christ. Mais nous vivons ce mystère d'une manière consciente et libre. C'est le fait de le vivre d'une manière consciente et libre qui donne tout aussi sa force. Et ça, c'est de cette manière-là que nous sommes le sel de la terre et que nous apportons quelque chose de nouveau au monde. Si nous n'allons pas jusqu'à la sagesse de la croix, donnons pas tellement plus que ceux, les hommes de bonne volonté qui croient en Dieu et qui mènent leur vie droite et qui tâchent simplement de faire le bien, mais sans comprendre ce que vient faire la souffrance dans leur vie. C'est un fait que ce langage de la croix, toujours sujet de contradiction et de rejet, et qu'il y a eu un rejet de ce langage à cause d'une crainte du dolorisme ou d'une forme d'attitude victimale qui serait pathologique. Mais je pense qu'il est temps de se réapproprier cette sagesse de la croix, parce que l'Église, de toute façon, actuellement, elle est appelée à passer par la croix. C'est évident qu'elle est appelée à suivre Jésus dans sa passion. C'est à la croix, à la fois une croix purificatrice pour elle et une croix rédemptrice pour le monde. Et donc, réveillons-nous. Ne vivons pas notre vie à côté du mystère essentiel de la vie chrétienne, qui est le mystère de la rédemption. Mais j'insiste sur la manière de nous laisser conduire par Jésus sur ce chemin, en vous rappelant que seule la grâce peut nous disposer à recevoir la grâce. Donc, seule la grâce peut nous permettre d'accepter et d'accueillir ce mystère de la croix dans notre vie. Et il faut porter humblement et pauvrement la croix. Humblement au sens d'être resté conscient que si nous appuyons tant soit peu sur nous-mêmes dans une attitude de moralisme héroïque, d'héroïsme humain, de générosité simplement humaine, dans une sorte de « on va y aller et on va y arriver, on va se sacrifier, mais on n'arrivera jamais ». Il faut porter humblement, en se laissant porter, en laissant Jésus nous conduire jusqu'à une véritable acceptation de tout cœur, que seule sa grâce peut nous donner. Sinon, on risque d'accepter, de poser des actes d'offrande et d'acceptation d'une manière volontaire, volontariste, avec une sorte de tension de générosité, sans que notre cœur arrive à suivre. Moi, je l'ai vécu étant jeune prêtre. Vous voyez, j'ai vécu... Dieu a permis que j'aie un certain nombre d'humiliations dans ma vie. Et étant jeune prêtre, j'en ai eu. Et je connaissais intellectuellement et théologiquement cette sagesse de la croix. Et je me souviens qu'il y a bien des choses que j'ai cru pouvoir accepter en les offrant volontairement à Dieu. Mais je me rendais compte quelques mois après que je ne les avais pas digérées. Qui restait en moi en fait un fond de colère et de révolte, de sentiment d'injustice. Je n'arrivais pas à dépasser. Fond de colère, de révolte, tout ça, c'est la réaction de notre nature humaine. En plus, contaminé par notre péché, notre orgueil, blessé. Et le fait de ne pas être en vérité par rapport à ça, a fait que Jésus avait du mal, si je puis dire, à me conduire plus loin dans le sens de l'acceptation, puisqu'en fait, je prenais mes désirs pour la réalité. C'est-à-dire, je prenais mes désirs d'accepter la croix et de tout offrir pour la réalité. Mon cœur n'arrivait pas à suivre. Notre offrande ne peut pas être une offrande héroïque à la force du poignet. C'est peut-être qu'un mouvement par lequel nous laissons Jésus nous entraîner dans son mouvement d'offrande. À l'intérieur d'un mystère d'épousailles, c'est Jésus qui nous conduit sur ce chemin d'une véritable acceptation de la croix. Et ému par l'espérance de pouvoir nous unir ainsi à lui plus intimement. Parce que notre joie, elle est d'être unis à lui. C'est cette espérance qui nous donne la force de tout supporter. Parce que nous l'aimons plus que tout, et par l'attraction qu'il exerce sur nous, eh bien, nous pouvons supporter par la force de cette attraction, parce que nous voulons communier à sa vie, et ce désir de communion à la vie de Jésus nous donne la force de communier à sa souffrance. Ici, on pourrait reprendre Philippiens 3. L'exemple de saint Paul, Philippiens 3, verset 8. Bon. Désormais, je considère tout comme désavantageux à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Celui qui parle ainsi est un homme qui s'est laissé terrasser par le Christ, au sens où le disait Jérémie. Tu m'as maîtrisé, tu as été le plus fort, tu m'as séduit. Il s'est laissé saisir par l'époux qui s'est révélé à lui d'une manière extrêmement violente, entre guillemets, au sens d'une violence de son éros, de son fol éros. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet afin de gagner le Christ, d'être trouvé en lui. N'ayant plus ma justice à moi, celle qui vient de la loi, mais la justice par la foi au Christ, celle qui vient de Dieu et s'appuie sur la foi. N'ayant plus ma justice à moi, ne recherchant plus ma perfection propre, morale, n'étant plus dans une logique d'auto-justification et d'auto-réalisation et d'auto-perfection, si je puis dire. La réussite de ma vie, c'est mon union à Jésus, ce n'est pas la réussite de moi-même. C'est ça une âme épouse. Elle vit pour un autre qu'elle-même. Le Christ est mort pour nous, dit saint Paul, afin que nous ne vivions plus centrés sur nous-mêmes, mais centrés sur lui. Le moralisme nous centre sur nous-mêmes, dans la recherche de notre perfection morale propre. La foi nous ouvre à l'autre, avec un grand A, qui est le Christ qui nous attire à lui et veut que nous vivions pour lui dans une extase amoureuse. C'est dans cette logique d'un amour passionné que saint Paul dit qu'il considère tout comme déchet à cause de la supériorité de la connaissance de Jésus-Christ. Parce que quand on est passionné, on désire s'unir au bien-aimé. Cette union, elle est sous mode de connaissance, comme je vous ai dit hier. Donc, par connaissance de Jésus-Christ, comprenez bien qu'il ne s'agit pas d'une connaissance intellectuelle théologique, mais qu'il s'agit bien d'une communion, une connaissance communion, un partage de vie. Donc là est notre joie. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Je considère tout comme déchet. Afin de gagner le Christ. Et après, il dit le connaître lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances. Ce qui meut saint Paul, c'est de connaître Jésus. Mais il connaît un époux crucifié. Le connaître lui avec la puissance crucifiée et ressuscitée. Avec la puissance de sa résurrection vient avant la communion à ses souffrances d'une manière étonnante. Parce qu'en réalité, Jésus nous porte avec la force de sa résurrection pour nous donner précisément la force d'accepter la croix et de communier à ses souffrances. Nous sommes portés par sa victoire sur la souffrance et sur la mort. Donc nous communions à sa résurrection, même si nous ne le voyons pas bien dans l'épreuve, mais en fait il nous porte lui, qui est, je dirais, sorti victorieux de l'épreuve. Et donc le connaître lui avec la puissance de sa résurrection et la communion à cette souffrance, lui devenir conforme dans sa mort, afin de parvenir si possible à ressusciter d'entre les morts, c'est-à-dire à entrer dans cette vie nouvelle avec lui. Lui devenir conforme. La pleine conformation de nous-mêmes au Christ, elle passe par la croix. Notre identification à Jésus. Nous avons vu, avec l'exemple de la vie de Jean-Paul II, un homme qui se laisse entraîner sur ce chemin, en vivant notamment la croix comme un mystère d'impuissance. Jésus sur la croix, il a les pieds et les mains liés, enfin il est cloué, et Jean-Paul II s'est lui retrouvé cloué sur une chaise. Et aussi, bien souvent, il devait rester couché. Donc la croix, c'est aussi ces situations d'impuissance qui nous empêchent de faire pour Dieu et pour les autres ce que nous voudrions faire. Sacrifice de l'action. Sacrifice de l'apostolat. Et nous voyons comment Jean-Paul II, qui s'est laissé par la Vierge Marie entraîner, à l'école de Marie, entraîner sur ce chemin d'une vie plus d'épousailles, de communion à la souffrance de Jésus, il a rendu, voyez, un plus grand service à l'Église en vivant pleinement son sacerdoce baptismal. À ce moment-là, c'était son sacerdoce baptismal qu'il a vécu, en vivant son épreuve comme il l'a vécu. Il a offert son corps en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu. Il a rendu un plus grand service que par l'exercice de son sacerdoce ministériel dans ses œuvres apostoliques. Parce que la participation intime à la rédemption, elle est là. Saint Paul, quand il dit « Je trouve ma joie dans les souffrances et vices en sacerdoce baptismal », mais le prêtre, s'il ne vit pas son sacerdoce baptismal, en étant le premier à offrir son corps en hostie vivante, sainte et agréable à Dieu, comment il pourrait entraîner les autres sur ce chemin? Le bon pasteur, il précède les brebis, marche en tête. Mais le prêtre, s'il oublie qu'il est aussi une âme épouse, qui doit suivre d'abord ce mystère-là, vivre d'abord ce mystère-là, et qui se concentre uniquement sur son sacerdoce ministériel, sans être enraciné d'abord dans sa grâce baptismale. Il est à côté de la vraie logique des choses. Enfin, il ne peut pas servir Jésus comme il doit le servir. Le Concile nous invite à penser que toutes nos actes d'offrande, d'acceptation des épreuves, plus ou moins plaignées, puisque souvent il reste encore bien des colères, en tout cas des sentiments d'injustice au fond de notre cœur. Bon. C'est un long chemin que celui, encore une fois, d'une pleine acceptation des croix, si ce n'est que progressivement on rentre de plus en plus dans cette logique, et ça peut devenir plus rapide, si je puis dire, d'accepter les choses. Bon. Mais en attendant aussi, les épreuves, elles peuvent devenir plus profondes. Donc c'est pas si simple que ce que je dis. Mais en tout cas, le Concile enseigne que toute cette vie sacrificielle que nous tâchons de vivre en nous laissant porter par Jésus et entraîner par Jésus, elles sont à porter comme nos sacrifices spirituels à l'intérieur de la messe. C'est-à-dire, c'est notamment au moment de l'offertoire que nous sommes appelés à reprendre notre vie, si je puis dire, de prendre le temps, en même temps qu'on apporte les offrandes, le pain et le vin. Traditionnellement, le pain et le vin étaient fabriqués par les fidèles dans les villages, confectionnaient eux-mêmes le pain et le vin qui devaient devenir le corps du Christ, le sang du Christ. Bien, en même temps qu'on apporte au moment de l'offertoire le pain et le vin, les fidèles sont appelés à apporter leur sacrifice spirituel, présenter leur sacrifice spirituel, c'est-à-dire toutes leurs actions, toutes leurs activités, toute leur vie qu'ils ont plus ou moins bien vécu sous un mode sacrificiel, pour que tout ça puisse être repris par Jésus dans son offrande au moment de la messe. Vous voyez, c'est beau de penser que nos offrandes plus ou moins bien vécues, Jésus, il les prend, puis il les achève. Mais en fait, ce mouvement que nous sommes invités à faire à chaque Eucharistie, vous voyez, c'est important de rentrer dans cette logique, et comme je vous le disais, de porter nos croix humblement et pauvrement, sachant que nos offrandes ne sont pas saintes comme celles du Christ, mais que lui, il les achève, il nous entraîne dans le dynamisme de son offrande, notamment donc par la grâce et de l'Eucharistie, sommet de la vie chrétienne. C'est pas pour rien que Jean-Paul II a achevé son pontificat, la fin de son pontificat a été une longue passion. Il a énormément souffert à la fin. Le cardinal Ratzinger avait fait remarquer qu'il était en même temps plus paisible, plus tranquille. Les dernières années de sa vie, il s'est apaisé. Il était plus abandonné, consacré plus de temps à la prière aussi. Cardinal Ratzinger, qui l'a dit en tant que doyen du collège cardinalis. La dernière intervention qu'il a eu l'occasion de faire en présence de Jean-Paul II, avec l'ancien collège des cardinaux. Eh bien, c'est pas pour rien que cette dernière année de son pontificat est en même temps l'année de l'Eucharistie. Qu'il a terminé en même temps qu'il a donné l'exemple à toute l'Église d'une vie d'offrande sacrificielle, il a invité tous les fidèles à mettre l'Eucharistie au cœur de leur vie. Le sacrifice eucharistique au cœur de la vie chrétienne.
C'est en quelque mot, Seigneur, ce que tu nous as dit sur les actes d'acceptation.
Oui, ben c'est dans le Lumen Gentium, dans la partie sur le sacerdoce baptismal. Là, qui disent que toutes les activités des fidèles, même les moments de détente, peuvent être des sacrifices spirituels, mais que tout ça trouve son achèvement et dans le sacrifice eucharistique. Donc je dis que Jean-Paul II, il a achevé en beauté, mais c'est peu dire, son pontificat, hein, en allant jusqu'au sommet de la montagne de l'amour, dans une offrande, en allant jusqu'au bout de l'offrande de lui-même pour lui qui avait dit qu'il voulait se consumer au service de l'Église, c'est bien consumé au service de l'Église dans son offrande, et en même temps qu'il a donné l'exemple à l'Église. Donc je vous disais, il a exhorté l'Église à vivre par l'Eucharistie. L'Église vit par l'Eucharistie. C'est sa dernière encyclique. Vivre par l'Eucharistie, vivre de ce mystère. Sous son double mode, voyez, sous son double aspect, l'aspect de l'offrande, participation au sacrifice eucharistique, et l'aspect de la communion. L'offrande précède la communion. On s'unit à Jésus dans son offrande au moment de la consécration, avec l'offertoire, on lui apporte nos sacrifices spirituels, on le laisse nous prendre dans le dynamisme de son offrande au Père. Nous prions pendant la messe pour que l'Esprit Saint descende sur nous et fasse de nous une vivante offrande. Et c'est la prière eucharistique numéro 3. Et tout ça s'achève dans la communion. Dans la joie de la communion. Ces deux aspects de l'Eucharistie, une vie d'offrande, de participation à la rédemption, une vie d'épousailles, une vie de communion intime. Voilà, c'est le cœur de la vie chrétienne. Un mystère d'union et un mystère de rédemption. L'union rédemptrice. La joie de l'union et la fécondité de l'offrande, d'une union qui s'approfondit dans l'offrande, qui nous donne la force en même temps de vivre l'offrande. C'est ça qui fait que notre vie est belle, hein, de la beauté, de l'amour pur, et qu'elle est vraiment féconde. Donc vous voyez, nous laisser attirer par l'Eucharistie, vivre notre vie de plus en plus comme une vie eucharistique, ce qu'a demandé Jean-Paul II, que notre vie tout entière devienne eucharistique, ça rejoint l'enseignement du Concile, que toutes les actions puissent être vécues comme des sacrifices spirituels. Et encore une fois, en nous laissant porter par ce mystère, entraîner dans cette logique de la croix, par le mystère de l'Eucharistie. À la fin de son encyclique sur l'Eucharistie, Jean-Paul II termine en soulignant que c'est Marie qui peut le plus nous introduire dans ce mystère, qu'elle est la femme eucharistique. Marie, c'est le sacerdoce baptismal incarné, si je puis dire. Et Jean-Paul II, avant l'année de l'Eucharistie, avait célébré l'année du rosaire. Écoutez le songe de Don Bosco. Les songes prophétiques de Don Bosco. Le songe célèbre que vous connaissez probablement des deux colonnes. J'ai vu une grande bataille sur la mer. Le navire de pierre, piloté par le pape et escorté de bateaux de moindre importance, devait soutenir l'assaut de beaucoup d'autres bâtiments qui lui livraient bataille. Le vent contraire et la mer agitée semblaient favoriser les ennemis. Mais au milieu de la mer, j'ai vu émerger deux colonnes très hautes. Sur la première, une grande hostie, l'Eucharistie, et sur l'autre, plus basse, une statue de la Vierge Immaculée, avec un écriteau « Auxilium Christianorum ». La bataille se fait beaucoup, toujours plus furieuse. Le pape cherche à se diriger entre les deux colonnes, au milieu d'une tempête de coups. Tandis que les armes des agresseurs sont en grande partie détruites, s'engage une lutte corps à corps. Première fois, le pape est gravement blessé, mais ensuite il se relève. Puis une seconde fois, et cette fois il meurt, tandis que les ennemis exultent. Le nouveau pape, élu immédiatement après. Reprend la barre et réussit à atteindre les deux colonnes, y accrochant avec deux chaînes le navire qui est sauvé, tandis que les bateaux ennemis fuient, se détruisent réciproquement et coulent. Qui a achevé l'année de l'Eucharistie? Qui a fait le synode sur l'Eucharistie? Benoît XVI. On vit des moments importants. On est à l'intérieur d'une gigantesque bataille. Les deux colonnes, c'est Marie et l'Eucharistie. On est Marie, n'oublions pas que c'est la femme eucharistique. Elle est là pour nous introduire dans une vie eucharistique, faire comprendre la grandeur de cet sacerdoce baptismal qui, de l'intérieur, rend l'Église féconde. S'il n'y avait pas Marie, la dimension mariale, c'est-à-dire d'union intime et de participation intime à la rédemption, l'Église ne serait qu'une grande entreprise, une grosse machine masculine qui fait marcher sa boutique. De tactiques, de techniques d'évangélisation, de trucs qui marchent, en s'appuyant sur ses propres forces, comme une grande machine de guerre. Mais elle n'est pas ça, l'Église. Elle est une pauvre et faible épouse qui se laisse saisir par l'époux divin pour être entraînée dans un mystère qui la dépasse. C'est Marie qui est le cœur de l'Église, qui est le modèle, le premier modèle de l'Église. Elle a plus et autre chose que les apôtres. Et c'est du côté de Marie qu'il faut regarder pour vivre ce doukinaltum, cet approfondissement de la vie chrétienne demandé par Jean-Paul II, demandé par le Concile. Modèle de sainteté, modèle de vie chrétienne. Il faut absolument que nous ayons une vie mariale et eucharistique tout à la fois. Supplions Jésus de nous donner Marie comme mère spirituelle, qu'elle nous entraîne sur ce chemin. Sinon, il n'y aura pas de vrai renouveau de l'Église, il n'y aura pas de vraie victoire. Si la victoire vient, elle viendra par Marie. Ça, c'est le dernier message de Jean-Paul II. Le songe de Don Bosco, on l'a...
Il a été interprété ensuite, comme ceci.
Vous l'avez là, je vous l'ai lu tel quel.
Oui. Hein?
Mais le songe de Don Bosco, on l'a appelé, on a à partir de ça développé ce qu'on appelait la spiritualité des trois blancheurs. Parce qu'en fait, le pape, il y a la blancheur de l'hostie, il y a la blancheur de Marie Immaculée, il y a le pape habillé en blanc. De penser que plus que jamais, Jésus veut conduire son Église à travers un unique berger, un unique vicaire du Christ, le chef visible de l'Église, vicaire du chef invisible de l'Église, qui est l'époux divin, et l'attachement au Saint-Père fait aussi partie des appels de l'Esprit-Saint pour notre temps. d'être vraiment docile. Jean-Paul II l'a dit, il n'y avait pas de renouveau de l'Église sans une entière docilité au magistère. Le pape marie l'Eucharistie. Ce n'est pas le moment de partir dans des petites spiritualités particulières, de se regarder le nombril en tant que personne et en tant que communauté. C'est le moment de se laisser entraîner dans cet appel prophétique lancé par le pape, qui est bien à l'écoute de ce que l'Esprit-Saint nous dit à travers le pape, et de ne pas rester dans des petites visions étriquées. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.